Nous allons ouvrir la parole de Dieu et lire quelques versets dans le livre de l'Exode, au chapitre 4. Exode, chapitre 4. Il est question de Moïse. Alors, ça a même commencé avant. Vous pourrez relire le chapitre 3 de ce livre de l'Exode, où Dieu vient se révéler et appeler Moïse à le servir, à s'engager, et ça a été un moment particulier. Et il y a un échange, une discussion entre Moïse et Dieu. Moïse a quelques difficultés. Il ne s'estime pas être au niveau. Il ne s'estime pas être capable d'aller et de faire ce que Dieu lui demande. Et il lui semble qu'il n'a pas l'étoffe, qu'il n'a pas la dimension nécessaire. Et puis, qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on va aller le croire, lui, hein, plus qu'un autre? Et Moïse est en train de dire à Dieu, eh bien, trouve une autre solution, moi je ne veux pas y aller. On est parfois un peu comme ça, vous avez remarqué? Et puis il y a tant d'autres choses qui parfois nous bloquent, nous limitent, nous arrêtent. On va justement méditer cela. Mais on va s'arrêter sur quelque chose, un événement particulier, une expérience particulière pour Moïse qui va lui donner de comprendre ce que Dieu va faire. Donc, Exode 4, Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit. Et cela redevint un bâton dans sa main. « C'est, dit l'Éternel, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Amen. Je m'arrête là, vous pourrez continuer la lecture chez vous et revoir l'ensemble de ce passage d'ailleurs, pour même si je vais l'énoncer quelque peu, mais considérer avec plus de précision et reméditer et aussi ses paroles. Je vais m'arrêter ce matin sur le bâton de Moïse. Vous allez dire, bon, ça ne m'inspire pas beaucoup, l'histoire du bâton. Mais vous allez voir que le bâton a une place importante dans l'Écriture. Alors, juste pour dresser un peu le tableau, j'ai déjà un peu commencé avec un court résumé de l'événement. Et on va voir aussi la symbolique donc de ce passage, de ce qui est en train de se passer là. Comme je vous disais, Moïse est en discussion avec Dieu. Et Moïse a besoin d'éléments concrets, tangibles. Ce qu'il vient d'expérimenter, c'est particulier. Pourtant, il y est habitué dans le désert, combien de fois? Et l'actualité est là pour nous le rappeler, avec les incendies, ça part comme un rien. Dans le désert, quand il fait sec, il était habitué à voir des buissons s'embraser et se consumer. Mais là, il y a quelque chose qui se passait, c'est que le buisson ne se consumait pas. Et il va faire un détour pour voir. Et c'est parce qu'il a porté intérêt à ce qui se passait là que Dieu va parler à son cœur et va se révéler à lui. Mais la discussion, elle est engagée, et Moïse, il vient de vivre quelque chose de fort, mais comment retranscrire aux autres ce qu'il vient de vivre? Vous avez expérimenté bien des choses de la part du Seigneur, vous avez été guéri, vous avez fait l'objet de la bienveillance de Dieu, de sa protection, d'intervention particulière de la part de Dieu dans bien des domaines, jusque dans le plan matériel et autres. Vous avez parfois beau le dire, alors ça va faire toujours du bien que de rendre témoignage. Mais vous savez que n'est pas ce qui force la personne à ouvrir son cœur. Dieu témoigne au travers de nous de sa bonté. Dieu témoigne tous les jours à cette humanité au travers du soleil qu'il fait lever, de la pluie qu'il fait tomber. Mais l'homme a besoin, on le sait, d'une conviction beaucoup plus forte, l'action du Saint-Esprit même dans son cœur. Et Moïse se dit, mais moi je serai dans l'incapacité, même si je dis, je serai dans l'incapacité de communiquer ce que je viens de vivre. Moi j'en suis convaincu, en quelque sorte Moïse, il dit ainsi, mais eux. Et il a besoin d'éléments forts pour bien comprendre, afin qu'il y ait dans son cœur une conviction forte pour avancer avec assurance. Ces objets, enfin cet objet, ces gestes vont justement, que le Seigneur va lui faire faire, vont justement lui décrire les réalités spirituelles. Et Moïse va comprendre au travers de ce geste et de la situation, il va comprendre ce que Dieu va faire. Et c'est afin de l'amener à une position de foi. Le bâton de Moïse est changé en serpent. Saisi par la queue, eh bien, il redevient le bâton dans sa main. Alors, il est possible, et je le dis rapidement, mais je vais l'approfondir, qu'il est possible de dire que le bâton transformé en serpent, ce bâton jeté sur la terre qui se transforme en serpent, c'est l'image aussi du serpent jeté sur la terre et qui représente la puissance de l'oppresseur, de l'oppression envers les hommes. Et puis ce bâton qui reprit dans la main de Moïse, ça nous parle eh bien, de cette transformation, ça nous parle de la croix qui est devenue le bâton. Le bâton par lequel l'ennemi, justement, est battu, vaincu. Le bâton, assimilé au serpent, cette scène que nous avons lue et au verset 2, où le bâton est jeté à terre, le bâton qui évoque le fait que Satan, nous le savons, a été jeté suite à sa chute, et à son acte de rébellion, et le prophète Ésaïe nous en parle en quelque sorte au chapitre 14, vous retrouverez cela, « Et te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as été abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Et il est celui qui vient oppresser les hommes, les peuples. Il vient eh bien, faire, je dirais, ses violences et ses torts, et nous savons ce que cela représente. Et il est celui qui agit, comme dit l'Écriture, en tant que prince de la puissance de l'air. Et les humains que nous sommes vivant sur la terre, nous avons l'air comme dimension à notre existence. Hein, et nous savons ce que ça représente. Et Paul rappellera cela aux Éphésiens. Dans Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous sommes au contact de cette réalité-là et nous voyons bien l'oppression que mène l'adversaire. Il est ce serpent qui mène la vie dure à cette humanité et qui l'a fait chuter, qui l'a fait tomber. Je ne vais pas m'arrêter sur cela, mais on va comprendre au travers de cet événement ce que Dieu veut faire comprendre à Moïse. Je vais m'arrêter sur le bâton, le sens du bâton, la signification. Quand on évoque la notion de bâton, j'en suis sûr à votre esprit, ça n'évoque rien d'agréable. Généralement, les coups de bâton, on les évite, n'est-ce pas? Mais le bâton, ben oui, symbolise les coups, la violence, le mauvais traitement. C'est l'image de ce que la vie parfois nous impose, et elle impose parfois à beaucoup. Et pour certains, c'est synonyme de punition, de châtiment, que cette notion de bâton, n'est-ce pas? Dans notre langue, dans notre vocabulaire, Le bâton, il a diverses significations qui sont souvent imagées, figurées. J'en ai relevé quelques-unes. Vous connaissez l'expression « mettre des bâtons dans les roues ». Hein ? Eh bien, ça nous parle de difficultés, d'actes volontaires qui sont destinés à nuire et à faire tomber. Hein ? On connaît bien cette expression-là. Nous connaissons l'expression « à bâton rompu ». Alors, c'est d'abord un terme d'architecture, d'abord, avec les formes brisées, en quelque sorte, je ne rentrerai pas dans le détail de cela, mais c'est souvent dit par rapport à une façon de parler. Cette expression signifie qu'il s'agit de propos décousus, sans suite, à l'image de ce que certaines personnes, dans leur manière de vivre, sont. C'est une manière décousue, ça n'a pas de sens. Vous connaissez aussi l'expression « mener une vie de bâton de chaise ». Hein ? Mais on se demande parfois qu'est-ce que ça signifie. Hein ? Mais en fait, autrefois, il y avait ce qu'on appelait les chaises à porteurs. Hein ? Il y avait deux personnes qui, avec l'aide de bâtons, de bois de chaque côté, eh bien, supportaient une chaise. Et donc, ces bâtons de chaise, eh bien, c'est ceux de la chaise à porteur. Ça veut dire avoir une vie déréglée et agitée. Parce que je pense que la chaise à porteur, dans certains endroits, ça devait être confortable, mais dans d'autres... Et c'est cette image-là de la vie chaotique, de la vie déréglée. Une autre expression qui nous parle du fait de recevoir son bâton de maréchal. Ça nous parle généralement du couronnement d'une carrière, de laquelle d'ailleurs il n'y a plus rien à attendre ni à obtenir. Ça nous fait penser à ceux qui sont satisfaits d'eux-mêmes, de leur réussite, même s'ils l'accomplissent sans Dieu. Cette expression qu'on retrouve aussi dans la parole de Dieu... consulter son bâton. Et ça, ce sont souvent les peuples païens, mais Israël lui-même, et dans le contexte biblique, s'adonnait à des actes de divination, le bois pouvant être celui des idoles, etc. Et d'ailleurs, le prophète Osée dira, au chapitre 4, verset 12, « Mon peuple consulte son bois, c'est son bâton qui lui parle. » C'est tragique, terrible. Vous connaissez, je termine par cela, chercher le bâton pour se faire battre. C'est vivre, se comporter de manière risquée, parfois dans la provocation, de manière dangereuse, où on s'expose à des conséquences qui sont souvent engendrées par une manière de vivre, de se comporter. C'est là quelques expressions. Le bâton de Moïse, on va voir diverses significations. Moïse est invité à jeter son bâton à terre. Et il est invité à le reprendre. Cet acte était particulier, mais Moïse va comprendre. Il va comprendre eh bien, ce que Dieu veut lui donner de saisir, parce qu'en fait, au-delà de ce que les autres, la crainte de Moïse, de ce que les autres pensent, il connaît. Il connaît lui qui est né au sein du peuple juif, du peuple hébreu, qui a reçu l'éducation de sa mère, bien sûr sous la direction et les soins aussi de la fille de Pharaon, mais avant qu'il ne soit sevré en quelque sorte, il a reçu toute l'éducation avec tout ce que cela comporte sur le plan moral et spirituel de la part de sa mère, de ses parents. Et après, il ira à la cour de Pharaon, où il va recevoir une autre éducation, celle de l'Égypte, et ça l'a mené à une position, etc. Et il connaît. Et si à un moment donné, lui-même a pris la fuite, Hein, alors qu'à un moment donné, il s'intéressait à ses frères, il voulait savoir ce qu'il se passait pour eux, et il va commettre, je dirais, des erreurs. Mais il sait que l'Égypte, c'est un peuple à la culture, à la pratique, aux pratiques spirituelles et une politique, je dirais, implacable. Et il sait que humainement, il n'y a pas de solution. Et il sait que ça touche à des domaines occultes. Il sait que le pouvoir du pharaon, qui est un dieu parmi les hommes, il sait que c'est tenu par des puissances de ténèbres. Ça, Moïse, il en a conscience. Et face à cela, on ne peut rien. Humainement, on ne peut rien. C'est implacable. Et Dieu va lui faire faire un acte particulier. Jette ton bâton. Ce bâton qui devient un serpent, c'est l'image de l'ennemi qui est là. Et devant ce bâton qui s'était transformé en serpent, Moïse, il fuit, parce qu'il connaît le serpent. Il sait ce que c'est. On n'aurait pas fait mieux, hein. Mais voilà que Dieu lui dit, saisis, ressaisis, par la queue. Seigneur, c'est que... Comment dire Cet acte signifie que le serpent, et Dieu veut faire comprendre ça à Moïse, il veut faire comprendre à Moïse que le serpent a été vaincu et qu'il est possible de le saisir et de le vaincre et de vaincre son pouvoir. Mais ça demande un acte de foi. As-tu saisi le serpent par la queue ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est qu'il y a peut-être pour toi quelque chose qui te fait peur. Il y a pour toi peut-être des situations que tu sais, non, ça on ne peut pas y toucher, ça on ne peut rien y faire. C'est une chose implacable. Il y a quelque chose pour lequel eh bien, l'oppresseur te tient captif. Il y a peut-être quelque chose eh bien, qui te laisse là, comme réduit dans l'incapacité. Eh bien, Dieu te demande de saisir le serpent par la queue. C'est-à-dire prendre une position de foi et faire face. Arrête de fuir. Arrête de laisser la peur te paralyser. Exerce la foi. Oui, humainement, il n'y a peut-être pas de solution, il n'y a pas d'issue. Mais Dieu te demande de faire un acte de foi et de saisir le bâton, de ressaisir le bâton. Tant de choses nous tiennent dans la captivité, dans la peur. Et tant qu'on les laisse nous dominer, oui, on est vaincu. Mais si on fait acte de foi, eh bien, on peut voir les choses changer. Parce que l'acte que Moïse va faire, et il va le faire, c'est un acte de foi, parce qu'il va comprendre là ce que Dieu lui donne de saisir. Oui, il y a un serpent, il y a un ennemi, il y a un oppresseur. Mais cet oppresseur, si tu mets ta foi en moi, Dieu lui dit en quelque sorte, eh bien, il est vaincu. Et Moïse va faire cet acte de foi en disant, eh bien, il est vaincu par la foi. Et il va redevenir un bâton. C'est la grâce qui est accordée à ceux qui ont cru. Que nous dit l'Écriture dans Marc 16, 18 ? Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, et vous connaissez la suite. Ils saisiront des serpents, serpents physiques, certes, mais sur le plan moral et spirituel, c'est une prise de position face à l'ennemi, au serpent qui se trouve là parfois, qui nous impressionne. Et ce passage et cette expression fait référence à Moïse. As-tu saisi ce serpent par la queue ? Ces situations, ces situations de vie, ces situations personnelles, peut-être de santé, peut-être matérielles, que sais-je encore ? Peut-être sur le plan moral et spirituel, as-tu pris position ? Moïse va comprendre là, par cet acte, qu'il a la victoire. À partir de ce moment-là, il comprend le dessein de Dieu. Et il va faire des expériences et il va en apprendre des choses. Mais il voyait, nous dit l'Écriture, celui qui était invisible, mais pour lui, il était bien réel, bien vivant. Il a marché par la foi. Cette chose est possible à cause de l'accomplissement de la parole qui a été dite aussi en Éden et réalisée par et en Jésus-Christ. Dans Genèse 3,15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Autre exemple, cette parole que l'on retrouve de Jésus lui-même, qu'il donne à Nicodème dans Jean 3,14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Cette allusion au serpent d'airain, on y revient, puisque le peuple avait désobéi dans le désert et Dieu avait exercé son jugement et des serpents étaient venus, c'était là toute une image aussi de l'ennemi qui exerce son oppression. Et le Seigneur, il va dire à Moïse, « Eh bien, fais un serpent d'airain, vous retrouverez ça dans Nombre 21, entre autres, et place-le sur une perche. Quiconque, il nous est dit, avait été mordu par un serpent, regardez le serpent d'airain, il conservait la vie. » Et Jésus met la chose en parallèle. La perche, figure de la croix, c'est l'image de ce serpent qui est vaincu. Et Jésus, il a été jusque-là pour nous. Il a supporté le poids de nos fautes. Et c'est l'image, la croix, du bâton, des coups de bâton, si je peux employer cette expression, que Jésus a asséné à l'ennemi. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous savez comment Dieu, nous dit le livre des Actes, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui est allé de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. En invitant Moïse à étendre sa main et à prendre le serpent par la queue, Dieu l'invite à s'approprier personnellement la victoire par le moyen de sa foi en un Dieu vivant. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 13, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Vaincre le malin dans toutes les situations où il essaye de nous bloquer, de nous arrêter. Oui, le bâton, on le sait, a frappé le Seigneur. Judas lui-même est venu avec une foule armée de bâtons. Vous retrouvez ça dans Matthieu 26. Le bâton du châtiment, il est tombé sur lui, effectivement, mais il s'y est cassé. C'est ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 9, verset 3. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. La croix, oui, c'est le bâton de Dieu. ce bâton qui devient instrument de délivrance. Dans la main de Moïse, ou d'Aaron aussi, parce qu'on retrouve cela, il a été l'instrument d'actes déterminants de la délivrance d'Israël. J'ai relevé quelques versets dans Exode, verset 17 du chapitre 4. « Prends dans ta main ce bâton avec lequel tu opéreras les signes. » Exode 7, 12. « Tous, ils jetèrent leurs bâtons qui devinrent des reptiles, mais le bâton d'Aaron engloutit leurs bâtons. » C'est une image très forte, ça aussi. Exode 7, verset 17, « Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu reconnaîtras que je suis l'Éternel, me voici, je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main et elle sera changée en sang. » Exode 8, l'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta main avec ton bâton sur les rivières, sur le bras du Nil et sur les étangs et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Exode 14, pour terminer, et ça revient plusieurs fois, où Dieu dit à Moïse, « Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer fendue, et fends-la, les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. » L'image du bâton est une image très forte. Toutes ces actions annoncent la victoire du Seigneur sur tout ce qui est du diable. Le signe de la mer rouge ouverte, qui est ouverte en deux, annonce cette victoire remportée sur la mort physique, mais la mort spirituelle. Un bâton. On en a une autre image, avec, vous retrouverez cela, vous relirez nombre 17. Il y a eu un petit souci à un moment donné, puisque certains disaient, ou prétendaient, qu'eux aussi, ils pouvaient faire. Qu'eux aussi, eh bien, ils pouvaient en faire autant et qu'eux aussi, ils aspiraient à exercer l'autorité, comme Moïse à Aaron. Et on remettait en question et en cause leur appel et leur mission. Dieu est exigeant. Dieu, on peut avoir à cœur de le servir. Mais on ne peut pas décréter soi-même de le servir, de son propre nom. C'est lui qui appelle, c'est lui qui qualifie. Et on ne peut attendre que l'appel de Dieu pour pouvoir le servir de manière efficace. Mais ici, Dieu va donner une recommandation dans Nombre 17, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici que le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait bourgeonné. Il avait fait éclore les bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes. Et tous, ils avaient donné un bâton là. Et celui d'Aaron, eh bien, il avait bourgeonné. Il y avait des fleurs, il y avait même eu des amandes qui avaient fleuri, qui avait mûri en une nuit. C'est pas comme ça que ça se passe habituellement. Ce bâton d'Aaron qui a fleuri en une nuit, alors que le ministère d'Aaron était contesté, et en fait, ça annonce, ce bâton-là annonce la résurrection aussi. Un bâton qui symbolise aussi l'autorité et le pouvoir de Jésus-Christ. Ce bâton, on peut le mettre en parallèle avec cette notion de sceptre, signe extérieur d'autorité absolue. Dans Genèse 49, verset 10, il est question là aussi de prophétie et de la venue du Seigneur, mais d'une bénédiction aussi pour les tribus. Mais il nous est dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh ou le Pacifique et que le peuple lui obéisse. Ce bâton d'autorité. Vous savez ce qu'on a fait subir à Jésus? Cette mascarade destinée à couvrir le Seigneur de ridicule était prophétique à l'insu de ceux qui faisaient faire cela. Mais dans Matthieu 27, on lui ôtèrent ses vêtements, ils le couvrirent d'un manteau écarlate, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. On s'est moqué, on a rabaissé le Seigneur. Mais pourtant, qui a le sceptre? Qui a l'autorité? Le Seigneur a tout pouvoir, toute autorité dans les cieux et sur la terre. C'est un bâton dont le pouvoir n'est cependant pas magique. Autre exemple de l'Écriture, le prophète va justement utiliser le bâton, vouloir qu'il soit utilisé, mais l'homme qui va l'utiliser ne va pas l'utiliser de la bonne manière ou pas dans les bonnes dispositions. Et je veux parler de cet homme Géasi, vous retrouverez dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 31. Géasi les avait devancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Ton truc, ça ne marche pas. Le serviteur d'Élisée pensait que la puissance de l'homme de Dieu résidait dans son bâton. Mais le prophète Élisée a envoyé son serviteur avec une symbolique. Et il attendait de lui une position de foi, qu'il soit dans la foi. En quelque sorte, en l'envoyant avec son bâton, il l'envoyait avec cette notion de la victoire de Christ, en quelque sorte, de la victoire sur la mort. Mais cet homme, ce serviteur, Géasi, pensait que la puissance de l'homme de Dieu résidait dans son bâton, et il est venu comme pour appliquer quelque chose, et ça n'a pas marché. Nous avons partagé tout à l'heure le pain et le vin, c'est le Seigneur qui nous a donné ces éléments, mais en eux-mêmes, ils ne sont rien. Ou l'onction d'huile que l'on peut faire de temps en temps, quand c'est nécessaire, ces ingrédients ne sont rien en eux-mêmes. Le bâton de Moïse ou le bâton du prophète n'étaient rien en eux-mêmes. C'est ce qu'on y met, et c'est ce que ça signifie, et c'est ce dont c'est porteur. Le prophète Élisée a envoyé son serviteur avec cette dimension de foi, la symbolique du bâton, dire ce serviteur de venir avec foi, disant voilà, je viens comme Pierre et Jean qui vont au temple à la prière, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Et on est porteur de quelque chose. Attention de ne pas utiliser les ingrédients, les éléments, pensant que ça a un pouvoir en soi-même. Ce n'est rien. La foi, elle est en Christ. On pourrait faire la même chose concernant la croix. Ce n'est pas dans un objet la représentant ou que sais-je encore, mais vraiment de placer sa confiance dans l'œuvre de celui qui a été crucifié et qui est ressuscité. Paul pouvait dire aux Corinthiens, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Un bâton qui brise le bâton de l'oppression. Je vous ai cité déjà tout à l'heure Ésaïe 9, verset 3, le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Le brisement du joug et du bâton de l'oppresseur, eh bien sûr, coïncide avec la venue du Sauveur dans le monde, comme l'indique ce texte que j'ai cité. Et dans Ésaïe 9, verset 2, le verset avant, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Un message d'espérance, des temps nouveaux, quelque chose de neuf. Oui, le Seigneur est celui qui brise le bâton de l'oppression. Il faut se laisser toucher par le bâton de Dieu. Moïse s'est laissé toucher en quelque sorte par cette expérience toute particulière où Dieu lui dit de jeter son bâton et puis de le ressaisir après. Entre-temps, il était devenu un serpent. C'était, il touchait la réalité de ce à quoi il était confronté, une opposition, une oppression. Et pourtant, il fallait ressaisir par la foi. Il l'a fait. Et il faut se laisser toucher par ce bâton, en quelque sorte. Et je dirais même, je vais pousser le trait un peu plus loin, se laisser frapper par lui. On a une autre image dans l'Exode, au chapitre 17, verset 6. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse a fait ainsi. Il est vrai que le bâton frappant le rocher qui donne de l'eau est le type de Christ frappé à la croix. On revient toujours à cette même image. D'ailleurs, plus tard, dans des circonstances similaires, Moïse, où à un moment donné, à nouveau, le peuple gémit, ils ont soif et il n'y a pas d'eau, et Dieu va donner directive à Moïse. Mais là, Moïse devait non plus frapper le rocher de Meriba, mais il devait seulement lui parler. Vous retrouverez ça dans Nombre 20. C'est l'image, semble-t-il, du fait que et malheureusement, Moïse, il a frappé le rocher. Et c'est l'image aussi du fait que Christ a accompli une fois pour toutes. Et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'opérer une deuxième fois, en quelque sorte. Il n'a pas besoin d'un nouveau sacrifice. Son sacrifice est pleinement efficace. Et hélas, Moïse, il a désobéi. Et c'est une chose assez grave, je dirais, aux yeux de Dieu, puisqu'il va le priver, ainsi qu'Aaron, d'entrer dans la terre promise. Mais je dirais qu'il est également possible de dire, et c'est juste, que le bâton de Dieu, c'est aussi la prédication de la croix qui doit frapper nos cœurs et nos consciences. Ça ne veut pas dire que ce message que je vous donne soit le bâton de Dieu ce matin. Mais ça signifie qu'il est, ce message est là pour qu'il y ait une conviction sous l'action du Saint-Esprit dans vos cœurs, pour que vous soyez convaincus. Et nous savons tous ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ils eurent le cœur vivement touché parce qu'ils ont entendu le discours de Pierre, la prédication de Pierre. Que ferons-nous ? Diront-ils. Il faut que le cœur soit touché par la conviction de péché, parvenir à la repentance. Et alors, on peut, pour reprendre l'exemple typologique et l'exemple du peuple d'Israël, à l'exemple du Seigneur aussi, se laisser toucher par ce bâton, mais c'est aussi laisser s'écouler des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est une image aussi. Il faut que le bâton nous frappe, qu'on soit touché jusqu'à la conviction jusqu'à la repentance, pour qu'il y ait un fleuve d'eau vive. Telle l'image du rocher frappé dans les airs et qui a abreuvé. Par notre vie aussi, nous pouvons abreuver ceux qui sont autour de nous et qui ont soif. Il faut aussi se laisser nourrir par lui, par ce bâton. Autre exemple, à un moment donné, vous retrouverez ça dans 1 Samuel 14, où Jonathan, le fils de Saül, avec son serviteur, un jour, ils vont monter dans la montagne et ils vont aller jusqu'à un poste des Philistins, là, et puis ils vont voir là que Dieu est avec eux. Et alors ils montent, ils se saisissent du poste et ils commencent à vaincre les Philistins, les ennemis. Et il va s'en suivre une grande victoire. Mais entre-temps, Saül va commettre une bévue de plus. Il va imposer à tout le monde de ne pas prendre de nourriture jusqu'à ce qu'il y ait la victoire totale. Et Jonathan, lui, il revient et il ne sait pas. Il nous est dit, Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis. En nous inspirant de cette scène, on peut dire que la croix est le moyen de nous nourrir de la parole de Dieu. Et ensuite, nos yeux s'ouvrent. Nous sommes éclairés par Dieu, ainsi que renouvelés dans nos forces. Après que parfois les combats nous aient fatigués, épuisés à tout point de vue, laissons le bâton aussi nous nourrir. Il faut se laisser embraser aussi par ce bâton, par ce même bâton. Et je trouve dans le livre des Juges, au chapitre 6, où l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pinces en levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pinces en levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Ici, l'homme avait préparé les sacrifices nécessaires et l'ange de l'Éternel est venu du bout de son bâton embraser tout cela. Et cet homme va être saisi par le fait que Dieu s'est manifesté à lui. Mais ça l'a équipé pour la suite de son service. Lorsque le cœur est mis au contact de la croix et de son message, eh bien, il nous est communiqué un feu, une force. Nous laisser rassurer par le bâton. Vous connaissez le psaume 23 ? Le verset 4, entre autres, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Le bâton, et je parle en connaissance de cause, mon père était berger, je suis né à la campagne, j'ai gardé aussi les brebis, donc je connais bien ça. Le bâton, il n'est pas pour la brebis, c'est la houlette. La houlette, c'est cet instrument recourbé qui permet de saisir la brebis par la patte arrière, en quelque sorte, c'est fait exprès, c'est juste pour l'attraper, ça ne la blesse pas en aucune manière, mais le bâton, il est destiné à frapper le lion, l'ours et tout animal sauvage. Ta houlette, c'est-à-dire c'est celui qui nous conduit, qui prend soin de nous. Et le bâton, c'est le synonyme de protection. Et c'est l'œuvre de la croix qui nous protège, si nous demeurons dans la foi. Jacques dira, au chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Enfin, savoir toujours s'appuyer sur lui. Comment dire ? La croix est le bâton du pèlerin, par excellence. Ça assure la sécurité, c'est le soutien du marcheur, nous le savons. Dans Marc, chapitre 6, verset 8, où Jésus dira à ses disciples, il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, et de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans sa ceinture. Un bâton. Mes frères et sœurs, si nous avons le bâton, nous avons tout. Si l'œuvre de Christ est en nous, si nous sommes dans la foi, nous avons tout. Les choses matérielles, les événements, les circonstances, ça peut changer et ça change en permanence. Tout peut disparaître, on peut tout perdre. Mais si nous avons le bâton, nous n'avons rien à craindre. C'est ce que les disciples vont expérimenter. Et il nous faut être en mesure d'être prêts pour le retour du Seigneur. Dans l'Exode, au chapitre 12, verset 11, « Quand vous la mangerez, il est question de la Pâque, hein, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Luc 12, 35, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Je termine par ce verset, parce que ce bâton, il est pour nous un appui pendant la marche, mais il est pour nous un appui aussi, et c'est l'œuvre de Christ pour adorer Dieu. C'est lui qui nous permet la réconciliation avec Dieu notre Père, et c'est lui qui nous permet de l'adorer en esprit, en vérité. Et l'Épître aux Hébreux nous rappelle ceci au chapitre 11, verset 21. « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. » C'était une position physique à l'égard de son âge et de sa situation physique, mais c'était une dimension spirituelle. Il avait saisi le bâton de la foi, de l'œuvre de Christ. Il s'appuyait sur ce tout accompli, sur cette victoire, pour bénir ses enfants. Nous ferons tout, nous adorerons, nous marcherons, nous servirons, appuyés sur le bâton qu'est Christ. Parfois, oui, le Seigneur nous invite à prendre certains chemins, des choses inattendues. Parfois, on ne comprend pas bien, nous sommes saisis de crainte, de peur, et Dieu va toujours utiliser le bâton. Il va toujours nous ramener à la croix, utiliser l'œuvre de la croix, et nous appuyant toujours sur l'œuvre de la croix, nous pourrons avancer. Ce qu'a fait Moïse, s'il a ressaisi ce serpent-là, c'est par la foi. Et il a compris que dès lors, Dieu avait tout pouvoir, et que maintenant, il avait établi sa victoire sur le Pharaon, sur l'Égypte, et c'est ainsi que Moïse a avancé. C'est ainsi qu'il a accompli son service. Ça a été long, 40 ans encore. Mais tant que le Seigneur n'est pas revenu, utilisons le bâton que Dieu nous a donné en l'œuvre de la croix de Jésus, accomplie en notre faveur. Amen. Alors ne reculez pas, n'ayez crainte, saisissez par la foi toujours le bâton. Amen. Je te bénis, Seigneur, pour ce bâton qui nous est donné en la personne et en l'œuvre de Jésus, pour cette victoire. Seigneur, tu connais les situations de vie, les situations de souffrance, les difficultés, les épreuves dont mes frères et sœurs sont l'objet. Seigneur, ils voient peut-être en ces choses-là l'ennemi les oppresser. Mais qu'ils puissent par la foi saisir, par la foi en Jésus, la victoire qui se trouve en ce bâton, en cette œuvre de la croix, et qu'ils puissent avancer sans ne plus rien craindre. Et ce qui semble impossible à vue humaine, Seigneur, tu as renversé les puissances et les dominations. Tu es celui qui règne et qui a tout pouvoir. Et je te prie, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs, que leur foi soit vivante, qu'ils aient le bâton à la main, Seigneur. Seigneur, que nous soyons, chacun de notre part, trouvés fidèles par toi, en nous appuyant, en ayant ce bâton. Oh, je te prie de bénir chacun dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.